Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathias, un élève de la classe de 511 et je vais animer cette partie de l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et voici le sommaire. Alors on va parler jeux vidéo, voitures aussi, l'influence du téléphone, il y aura des films aussi et un peu de technologie. Commençons directement par une séquence jeux vidéo, vous pouvez y aller. Ce sont les élèves Clément, Sabri, Lucas et Louis, à vous.
Bonjour, alors en effet nous allons parler de jeux vidéo. Donc moi je vais poser des questions et les autres vont me répondre. Alors pour commencer, est-ce que vous connaissez tous Brawl Stars?
Oui, on connaît.
Et c'est qui le créateur?
Supercell.
C'est ceux qui ont fait Clash of Clans et Brawl Stars et aussi Heyday.
Et Boom Beach.
Et c'est quoi le but du jeu?
Y a plusieurs modes, donc tu peux jouer en solo ou aussi en multijoueur.
Tu pourras jouer avec nous si tu veux.
Ah bah cool. Mais et du coup les trophées ça marche comment et tout?
Ça dépend en fonction de ton rang. Et plus ton rang élevé, plus tu gagnes de trophées.
Plus tu le restes longtemps dans la game en fait, plus t'as de trophées à la fin.
Ah et aussi j'avais une autre question, quand je joue poly, que j'arrive pas à toucher les autres, comment je fais?
Faut pas auto-shoot surtout.
Faut viser, il y a le joystick, au lieu de taper une seule fois, tu vises.
Mais comment ça, c'est quoi auto-shoot?
Auto-shoot c'est quand t'appuies le bouton.
Ah ok, et d'ailleurs il y a aussi avec Dynamite que j'arrive pas, c'est pour la même chose j'imagine du coup?
Ouais, c'est exactement pareil.
Ah ok.
Si tu veux, tu pourras jouer avec nous. Hein.
Ah bah ouais, pourquoi pas.
Merci à vous, c'était gentil votre intervention. Maintenant on va passer à un autre groupe. Bonjour et... Deux personnes vont nous parler de leur passion, donc la voiture et la moto. Allez-y, Gabin et Mahmoud.
Donc, bonjour à tous, mon cher Mahmoud.
Bonjour, Gabin.
Nous souhaitons vous prévenir d'emblée que lors de cette conversation entre Mahmoud et moi-même, nous allons utiliser un vocabulaire spécifique qui pourrait paraître compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas pour passion les motos et les voitures. Comment vas-tu, Mahmoud?
Je vais bien, et toi?
Ça va. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous allons parler du monde de la 50cc et dans une seconde partie de 106 et 16.
Toute notre enfance, n'est-ce pas?
Oui.
Moi, c'était plus la mobylette. Et toi?
Moi, plus le scooter.
Il était d'origine, ton scooter?
Oui, avec un Popolini et un Carbu de 17.5. Dès l'Orto, et toi?
Moi, j'avais la grosse configuration, on va dire. Un cylindre diamètre 50 mm MOST, un vilebrequin renforcé MOST, un allumage MVT Premium, un embrayage renforcé MOST, un carburateur de 28 mm Sunworld, une pipe MOST, un filtre à air Watt.
Ah oui.
Durant ma jeunesse, c'était toute ma vie. J'aimerais revivre cette belle période avec le dancing, les copines et les mobs.
Moi aussi avec les gendarmes qui ne nous emblottaient pas à cette époque.
Oh, c'est clair. Si vous voulez vous équiper, n'hésitez pas à aller chez Bikesellier. Le mieux, c'est de le joindre via sa page Instagram, ou bien Scootfast, la Bécannerie ou encore 50 Factory. Nous allons passer du coup au second thème, qui est principalement les Peugeot 106, principalement les S16. Moi, c'est ma voiture préférée.
Moi aussi.
La petite sportive des années 90 et 2000.
Elle a toute de sa grande sœur, la 205 GTI.
Une vraie petite bombinette. Elle est très populaire en rallye avec des amortisseurs à biellette Bilstein, un bon gros moteur, une ligne groupe N, 4 jantes OZ ou bien BBS, un kit car S2000 maxi, et une bonne boîte séquentielle, un intérieur avec des sièges baquets Esparco, au volant OMP, des harnais Hector, pourquoi pas.
Il y a des personnes qui sortent 230 chevaux de ces petites voitures.
Tout comme sa petite concurrente, la Saxo VTS de chez Citroën.
Oui, à la base c'était la même coque.
Voilà, donc nous avons souhaité vous parler de notre passion, on espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous, c'est gentil d'avoir parlé de votre passion. Maintenant, on va passer au prochain groupe. Trois autres élèves qui sont donc Émeric, Alexis et Lucine qui vont parler de trois films différents. Et je leur laisse présenter leurs films. Allez-y.
Bonjour, moi c'est Émeric. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc trois films différents de styles différents et de qualités différentes. El Camino, La Tour Montparnasse et Titanic 2. Pour chaque film, on présentera leur réalisateur, leurs acteurs principaux, puis on les résumera. Et enfin, on exposera notre avis sur ces films. Je vais commencer par El Camino. C'est un film réalisé par Vince Gilligan. Il est né le 10 février 1967 à Richmond. C'est un scénariste, producteur et réalisateur américain au cinéma et à la télévision. Après s'être fait connaître pour son travail de scénariste sur la série télévisée X-Files, il a créé et est devenu le showrunner de la série Breaking Bad, ainsi que de sa dérivée Better Call Saul. Le personnage principal d'El Camino est Aaron Paul. C'est un acteur américain qui a commencé sa carrière à 17 ans. Ses rôles les plus connus sont Jesse Pinkman dans Breaking Bad et Tobey Marshall dans Need for Speed. Pour son rôle dans Breaking Bad, il recevra d'ailleurs 2 Emmy Awards en 2010 et en 2012. Ce film suit la continuité de la série Breaking Bad. On y suit Jesse Pinkman, qui est interprété par Aaron Paul. On le retrouve à la fin de la série, dans la suite de la fin de la série, où il sera libéré par Walter White du gang de Jack. Dans ce film, il doit se repentir de ses crimes passés tout en étant traqué par les forces de l'ordre pendant sa fuite vers l'Alaska. Tout comme la série, ce film a de très bonnes idées de mise en scène qui savent appuyer le thème mis en avant, le traumatisme de Jesse. Durant tout le film, il est hanté par sa captivité et sa culpabilité. Mais c'est aussi cette hantise qui le motive dans sa quête d'exode vers l'Alaska. Pour lui, l'Alaska est synonyme de paix, de liberté et de nouveau départ. On pourrait mettre cela en opposition avec le Nouveau-Mexique, sa terre d'origine au climat chaud et pour lui regorgeant de remords. Même si Jesse Pinkman est le personnage principal de ce film, tous les autres personnages sont traités avec attention. Chacun a le droit à une dernière scène touchante qui rend hommage à leur rôle dans cette série et plus largement sert de conclusion de leur évolution dans la série. Et c'est sur cette idée de conclusion que je terminerai, car ce film a pour but de conclure l'œuvre marquante qu'est Breaking Bad, et il y arrive très bien, car il émane une sorte de nostalgie et de mélancolie, et en même temps d'apaisement. L'apaisement de connaître la fin de l'histoire des personnages secondaires, la fin de l'histoire des personnages principaux, et la fin de la série Breaking Bad. Je vais passer la parole à Lucine, qui va vous présenter La Tour Montparnasse Infernale.
Bonjour, donc moi c'est La Tour Montparnasse Infernale, qui est réalisée par Charles Nemeus et sortie en 2001. Donc c'est un réalisateur et scénariste français né le 5 août 1951 à Paris, auteur de 6 romans. Son œuvre est marquée par les films et séries comiques. Il marque la première apparition d'Eric et Ramzy au cinéma en tant que personnages principaux. Donc c'est un film comique français. Après leur succès à la télévision et sur scène, Eric et Ramzy sont laveurs de carreaux à la Tour Montparnasse lorsqu'ils assistent à une prise d'otage. Parmi ces otages, une femme, Kirik drague Marie-Jo, son vieil oncle fortuné et quelques-uns de ses associés. Les preneurs d'otages sont un gang dirigé par Machin. Les terroristes veulent contraindre le riche vieillard à leur ouvrir son coffre-fort qui contient 50 millions de francs. Voyant que la situation tourne au vinaigre, Eric et Ramzy décident d'intervenir et quittent à risquer leur vie. Ce film est une très bonne comédie d'Eric et Ramzy, qui, à sa sortie en 2001, a connu un beau succès. Les deux, racassés, sont excellents et hilarants dans le rôle de ces deux laveurs de carreaux complètement débiles. Donc, ensuite, c'est à Alexis de prendre la parole.
Bonjour, moi c'est Alexis. Le film que je vais vous présenter s'appelle Titanic Odyssée 2012, alias Titanic 2. Ce film a été réalisé par Shane Van Dyke, qui est un acteur, scénariste et réalisateur américain. Né en Californie en 1979, il commence sa carrière à la sortie du lycée après s'être inscrit au cours de théâtre. Par la suite, sa carrière s'enchaîne, passant de série en série pour finalement commencer à écrire ses propres scénarios. Finalement, en 2010, il sort le film Titanic 2, dont lui-même est acteur, jouant le rôle du constructeur du navire. Les acteurs principaux sont Aiden Walsh, un scientifique spécialisé sur la banquise, interprété par Bruce Davison, et l'infirmière Amy Main, interprétée par Brock Byrne. Ce film se déroule en 2012, soit 100 ans après le Titanic. Un nouveau bateau a été construit, comme si l'ancien n'avait pas suffi, en l'honneur de l'ancienne épave, une version censée flotter avec sécurité renforcée. Ils ont même intégré plus de canaux, un capitaine assez compétent qui va passer son temps à siroter du café, et puis seulement 2 infirmières pour toute la cargaison. Au même moment, Aiden Walsh, un scientifique, part étudier au Groenland la fonte des glaciers, plus particulièrement un iceberg de la taille de l'Iowa se décrochant. Le suspense est de courte durée lorsque Aiden Walsh, spécialiste de la banquise, comme je le suis de l'économie sri-lankaise au XIVe siècle, décroche par accident un morceau de glacier de la taille du Montana. celle-ci provoquant un tsunami qui, comme par hasard, fait couler le soi-disant Titanic 2 hyper résistant. Puis tout le monde meurt, sauf un des deux personnages principaux, et c'est la fin du film. Waouh, très professionnel. Ou sinon, pour moi, dans le style film barbant à catastrophe inhabituelle, on repassera le suspense, puis dans le genre bande d'annonces inexistantes, la carte bleue avec deux bouts de scotch pour soigner une plaie n'est pas mal non plus. Puis des effets spéciaux d'un nullissime indiscutable, un scénario, pardon, une ode à la connerie. Oui, cela provient d'une critique positive.
Bah, très bien, merci à vous pour avoir parlé de ce film. Puis on va passer au prochain groupe. Cette fois-ci, c'est SM et Amal qui vont nous parler de l'influence du téléphone portable. Elles ont recueilli des avis de membres de notre établissement. SM et Amal, à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, en plus particulier les établissements scolaires. Nous parlerons de l'usage du téléphone portable au lycée. Nous avons, dans ce but, interrogé plusieurs professeurs et quelques membres de l'établissement.
On va commencer par l'avis des professeurs. Donc, 97% des professeurs pensent que le téléphone nuit à la concentration de l'élève et 2% pensent que ce n'est pas forcément un obstacle et que tout dépend comment ils l'utilisent. Et ils ont remarqué qu'on manque beaucoup de sérieux en classe à cause du téléphone et qu'on devrait l'interdire au lycée, mais pas à tous les endroits parce que ça peut être utile en cas d'urgence ou pour faire des recherches en classe. Mais quelques-uns profitent pour regarder les messages au lieu de travailler. Les professeurs pensent que nous en servons beaucoup et que c'est pas très bien pour la concentration. Et ça capte trop notre attention et que ça nous influence beaucoup. Et tous les professeurs que nous avons interrogés ont déjà vu quelques personnes l'utiliser en cours pour répondre aux messages ou aller sur les réseaux sociaux. Et ont déjà surpris des élèves en train de tricher au contrôle.
D'après l'avis d'un surveillant, le téléphone ne nuit pas qu'aux élèves, mais à tout le monde. L'interdiction du téléphone au sein du lycée n'est pas obligatoire, sauf en cours et en permanence. Il pense qu'on s'en sert beaucoup. La professeure documentaliste pense que l'exagération du téléphone est dangereuse, qu'on peut limiter l'utilisation ou l'utiliser pour travailler. Pour elle, l'utilisation du téléphone sur les réseaux n'est pas plus d'une heure et pense qu'on devrait l'interdire au sein du lycée. D'après la CPE, le téléphone fait partie des habitudes mais qu'on devrait l'utiliser que pour des besoins. Le téléphone nuit beaucoup, rien que les heures qu'on passe dessus à force d'être trop sur les réseaux sociaux, on communique plus entre nous. Et la CPE a dit que l'on devrait passer plus de temps avec nos familles que sur nos téléphones. Les CPE ont beaucoup à faire au cyberharcèlement au lycée.
Eh bien, merci à vous. C'est gentil de nous avoir présenté ce sujet. Et maintenant, on va passer au prochain groupe. Loris, Sofiane et Lucas vont nous parler cette fois-ci d'actualité. Allez-y.
La rentrée scolaire pourrait se faire fin août ce week-end. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est dit ouvert à des discussions autour du calendrier scolaire. Et si les vacances se terminaient avant l'heure, au congrès de la FCPE à Biarritz, le ministère de l'Éducation s'est dit ouvert ce week-end au débat sur les calendriers scolaires de l'année. Le temps de l'enfant doit être mieux étalé sur une base hebdomadaire, mais aussi sur une base annuelle, a-t-il expliqué. Une déclaration qui intervient alors qu'un projet de décret permettant le retour à une semaine de 4 jours dans les écoles sur dérogation doit être présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation le 8 juin. Il y a 10 ans, certaines villes avaient expérimenté une rentrée en fin de mois d'août. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut faire cela à l'échelle nationale, mais il faut en discuter, a précisé le ministère de l'Éducation. Dans un communiqué, la première fédération de parents d'élèves a évoqué des parents qui n'ont pas semblé très convaincus par les arguments avancés, s'inquiétant de la territorialisation de l'éducation. Maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue Lucas.
Alors, c'est une triste nouvelle pour le rap français. Le rappeur Népal, connu pour son immense talent, nous a quittés le mardi 9 novembre. L'annonce a été faite ce mercredi 20 novembre sur les réseaux sociaux de l'artiste. Mystérieux, Népal n'a jamais voulu montrer son visage, mais s'est rapidement fait respecter pour son talent. Si le grand public l'a découvert sur Eskimo dans l'album Cyborg de Nekfeu, le rappeur parisien a fait ses classes dès 2011 au sein de la 75e session. Il formait aussi le duo Two Things avec Dooms, qui vient d'annoncer son projet Pilot & Co. sur lequel sera présent Népal. En septembre 2018, le rappeur sortait son EP composé de 8 titres, annoncé comme son dernier EP, avant son premier album. Comme précisé dans le communiqué publié, un album intitulé Adios Bahamas que Népal venait de finir sortira au mois de janvier afin de faire perdurer son art et sa mémoire. Repose en paix. Maintenant, je vais laisser la parole à Loris qui va vous parler de la PS5.
Je vais donc vous parler de la PlayStation 5 de Sony, dont la date de sortie se précise. La console ne sortira finalement pas en décembre, mais quelques semaines plus tôt, le 20 novembre, soit quelques jours après la Xbox Scarlett de Microsoft, qui est sa concurrente, et 9 mois après sa présentation officielle le 12 février. Son prix sera de 499€, tout comme sa rivale, soit 100€ de plus que la PS4 à son lancement en 2013. On connaît à peu près son design, elle sera donc plus fine que la précédente et surtout deux fois plus performante. Cette nouvelle, va en ravir plus d'un, dont moi, et va sûrement exploser les ventes de la PS4.
Eh bien, merci. On va passer au prochain groupe maintenant. Et le dernier aussi. Mohamed, Romain et Ivan qui vont nous parler de nouvelles technologies. Allez-y, présentez-nous ce que vous avez à présenter.
Alors bonjour, je suis Mohamed. Aujourd'hui, nous allons vous parler de technologie et d'un futur proche. Nous n'allons pas vous parler de voitures volantes, mais de nouvelles technologies qui existent déjà, que peu de personnes connaissent réellement et qui pourtant pourraient être très intéressantes.
La VR, ou plus simplement réalité virtuelle, est une technologie prometteuse qui existe déjà aujourd'hui, à condition d'y mettre le prix. Vous connaissez sans doute déjà la VR, notamment dans le domaine du jeu vidéo, où elle est très présente. Mais comparé à ce que l'on pourrait croire, la VR n'est pas qu'un jouet et est utile dans d'autres domaines, tels que la médecine. En effet, le ministère des Armées a présenté une machine utilisant la réalité virtuelle pour supprimer les effets du mal de mer. Bref, la réalité virtuelle ne cesse d'évoluer et aura sûrement, et sûrement que dans le futur, tout le monde aura son casque de réalité virtuelle.
L'AR, aussi appelée réalité augmentée, est une technologie qui ressemble à la VR, mais disons qu'elle rajoute des choses à la vraie vie. Des sortes d'hologrammes vus de partout. Elle est le mélange parfait entre vie réelle et réalité virtuelle.
L'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent aux robots de Terminator. Mais comparé à ce que l'on pourrait penser, l'IA est partout. Que ce soit sur votre téléphone, internet ou dans les jeux vidéo. Mais dans les prochaines années, entre les robots capables de vous parler comme Google Assistant ou de la voiture autonome, le futur risque d'être mouvementé. L'ère du futur n'est pas si loin. Des choses que l'on imaginait il y a quelques années sont déjà en développement, ou déjà existants, mais il reste des choses à peaufiner. Mais regardons les voitures, inventées il y a presque 300 ans maintenant, elles n'est toujours pas terminées.
Eh bien merci à vous, et c'est terminé maintenant. C'était gentil à tous ces élèves d'être passés, c'était une bonne expérience pour la majorité je pense. Et pour moi aussi c'était une très bonne expérience d'avoir animé. Au revoir et peut-être à une prochaine fois, on ne sait jamais.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.